Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
La Coupe du Monde de football, c'était du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. La rédaction de 20 minutes a envoyé pendant 5 semaines 2 journalistes sur place, 2 envoyés spéciaux, Aymeric Le Gall, William Pereira. Leur mission, suivre la compétition sportive, le parcours des Bleus évidemment, et puis aussi raconter ce petit pays du Golfe très conservateur, ses centaines, ses milliers d'ouvriers morts sur les chantiers des stades, un petit territoire où luxe et extrême pauvreté se côtoient. Pour les deux journalistes du service des sports de 20 minutes, le Qatar, c'est une première. Sur place, ils vont devoir envoyer des articles, des vidéos, des lives. Et puis aussi, sur place, il y a la vie à côté qui les rattrape. L'équilibre journaliste, personne qui évolue, c'est ce que va nous raconter Aymeric Le Gall dans cet épisode de Minute Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud et c'est parti. Aymeric, avec William, ton collègue, c'était quoi votre lettre?
Le principe,
de
c'était on part pas.
Qatar.
On n'est pas une agence de voyage, on va pas faire la pub du Qatar. Ils ont plein de gens, journalistes, universitaires, politiques, qui font très bien ça pour eux. Hein. On sait que la politique de la Rolex, ça s'appelle au Qatar. Hein. C'est, voilà, on t'allonge la thune et tu racontes que tout est beau. Il y a d'autres médias pour lesquels c'est plus compliqué de faire ce boulot par manque d'indépendance, justement. Donc nous, on a pu le faire. On a eu cette chance-là d'aller donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et c'était passionnant. C'était presque plus intéressant journalistiquement que de couvrir des matchs des Bleus.
Comment tu t'organises pour faire ces reportages sur le terrain?
Moi, j'étais sur l'équipe de France. Donc, c'était quand même William qui était missionné pour faire et les autres matchs des autres équipes et tous les sujets sociétaux. Moi, mon chef de service m'a dit, à tel moment, il y a une petite respiration, lâche les Bleus et essaye d'aller faire autre chose, quoi. C'est en discutant avec Quentin Muller, qui a écrit un très bon bouquin, Les esclaves de l'homme pétrole, un bouquin de référence où il est allé, lui, incognito au Qatar, parler avec ses travailleurs immigrés. Et c'est là qu'on a rencontré Paul, dont son histoire, voilà, qu'on a suivi un peu tout au long de ce mondial.
Paul, c'est un garçon de 26 ans qui est ougandais et qui est au Qatar.
Depuis 2 ans. Quand on est arrivé, il était là depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais.
Dans quelle situation est Paul ?
Comme les millions de travailleurs et travailleuses immigrés, c'est donc des Bangladais, des Pakistanais, des Africains de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique, pardon, et des passeurs qui leur vendent un Eldorado, va au Qatar, construire ce pays de tes mains, et puis tu vas être super bien payé, et ils y croient, tous. Et en arrivant sur place, ben, on déchante tout de suite. C'est-à-dire, lui, il bossait pour une boîte de livraison, une sorte de Deliveroo local, Talabat, ça s'appelait. Et en arrivant, ben, on lui file une moto, des clés, puis on lui confisque son passeport, quoi. Et à partir de là, il est lâché dans le grand bain, avec les risques qu'il y a d'accidents, parce que les Qataris, dans leurs immenses 4x4, roulent à des vitesses complètement folles. On a failli se faire écraser. Beaucoup de risques d'accidents. Des amis à lui sont morts au volant, enfin au guidon. Il travaille un petit peu, il livre ses repas, très très mal payé, voire pour la plupart du temps jamais payé, logé dans des conditions déplorables, pas de carte de santé, alors que les patrons sont tenus quand même de leur donner une carte de santé. Bref, il a un accident un jour, plus de travail, donc plus de salaire, le patron ne lui a pas donné cette fameuse carte de santé, donc il va à l'hôpital, on accepte, hein, voilà, faut aussi le dire, le Qatar accepte les médecins qataris de le soigner vite fait, voilà, de faire les premiers secours. Mais après, il le renvoie chez lui et lui n'a plus aucun moyen de subsistance et il tombe très vite malade parce que mal soigné. Et son patron le vire et donc il se retrouve à la rue totalement. Quoi.
Quand tu le rencontres, il n'a plus de passeport, il n'a plus de travail.
Il me donne rendez-vous dans un supermarché assez éloigné du centre de Doha et me raconte son histoire pendant 2 heures. Voilà, une histoire à base. Mais c'est toutes les histoires qu'on a entendues avant en fait. Lui, c'est qu'une histoire, c'est une goutte d'eau dans un océan de misère. On finit par quitter le centre commercial parce qu'il y a encore aussi des caméras, puis des oreilles. On va dans une sorte de terrain vague délabré. Et puis même là, il y a des 4x4 qui ralentissent en voyant un petit black et un petit blanc-bec qui discutent avec un carnet à la main. J'écoute et je lui dis qu'est-ce que t'attends de moi au final. Moi je peux que écrire un papier, voilà, et médiatiser un peu ta cause, mais bon voilà, moi je me sens hyper mal en fait. Je lui donne un peu de thunes, mais voilà, moi je suis là avec ma thune, je suis là. Donc c'est hyper, voilà, la confrontation elle est bizarre. Et puis je pensais pas qu'on se reverrait plus fondamentalement, mais bon, on avait nos numéros. Je lui ai dit, si t'as quoi que ce soit, tu m'appelles. Il me quitte en me disant, bah, ma dernière solution, c'est d'aller me livrer moi-même aux autorités dans un centre, il appelle ça le centre de déportation. Je finis par lui dire, bah, écoute Paul, ce qu'on peut essayer de faire, c'est éventuellement, mais va voir ton ambassade, quoi. Il n'a pas confiance dans son ambassade parce que pays corrompu, parce que petite ambassade, hein, loin d'à par rapport au Qatar en termes de pouvoir diplomatique, c'est walou. Mais donc on y va quand même, donc je vais le chercher, on prend un taxi, il y a pas mal de péripéties là-dedans, on va pas tout expliquer, mais donc on va à l'ambassade. Pas de bol, comme d'hab, elle est fermée, parce qu'elle ferme à 13h, et c'est très souvent ça, c'est les bureaux fermes quand Paul arrive en fait. Donc là le mec lui dit, bah non, repassez demain. Je dis, non, on repassera pas demain, on ne bouge pas d'ici tant que Paul n'a pas été reçu. J'explique son cas au mec, et je pense que, c'est ce que Quentin Muller m'a dit, mon collègue qui connaît très bien le pays, m'a dit, sans toi journaliste, il lui aurait jamais ouvert la porte. Donc moi, mon but, c'est peut-être qu'un parmi des millions, mais on va essayer de lui l'aider. Et donc là, il nous reçoit, il écoute Paul, on appelle le patron escroc de Paul en direct, on l'entend, il parle arabe, et il nie devant nous et devant le mec de l'ambassade, devant l'officiel, à retenir son passeport, quoi. Le mec nous dit, bah écoutez les gars, on prend la voiture et on va déposer une plainte au commissariat. Donc là, on est... Voilà, je vois Paul qui sourit, il commence à y croire, quoi. Parce que lui, il se voyait en prison, emprisonné dans ce pays pour des mois, peut-être des années. Après quelques parlementations entre l'officiel et les policiers qataris, le mec de l'ambassade vient me dire, bah c'est bon, maintenant tu peux... Je devais en plus aller voir le match des Bleus, donc j'étais un peu... Il fallait que je bouge. Il me dit, c'est bon, va, tu peux y aller, va-t'en, Paul, ça va le faire, on va... La plainte est déposée, on va lui rendre son passeport, hein, on va même lui payer les salaires qui lui ont pas été payés. Donc moi, je le quitte là-dessus, hyper, hyper heureux. Et au final, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et il y en a encore.
Et ben maintenant, la suite.
Il y a l'après-commissariat, c'est-à-dire où on nous raconte que. Et finalement, en fait, la solution qui a été trouvée, c'est que déjà, un, on lui a jamais remboursé ce qu'on lui devait. Donc c'est des milliers d'euros, hein, c'est des milliers d'euros. Donc imagine pour lui, voilà, il a une petite fille d'un an et demi en Ouganda, une femme qu'il n'a pas vue depuis des mois, voire des années. Finalement, ils le mettent en centre de détention. Et là, il est en prison, en fait. Je me rends compte qu'il est en prison pendant... Et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Il m'envoie un texto en me disant, bah, là, je ne vais plus pouvoir t'écrire parce qu'ils vont me prendre mon téléphone. Donc moi, je finis par aller le retrouver là-bas, parce qu'entre-temps, ses affaires, il les avait laissées dehors. Je finis par réussir à lui filer ses sacs. Mais voilà, il est resté dans ce centre de détention une dizaine de jours, jusqu'au coup de fil qui fait super plaisir, juste avant la finale de la Coupe du Monde, je crois, deux jours avant. Il me dit, bah, ça y est, je m'en vais demain soir. Donc ça y est, il avait une place réservée dans un avion pour se barrer de ce pays. Et là, bah, on souffle, quoi. Parce que Paul, c'est plus devenu un gars que j'ai rencontré pour travailler. C'est devenu un ami, un mec qu'on laisse pas dans la merde.
T'as eu des nouvelles depuis ?
Aujourd'hui, Paul est rentré chez lui. Il m'a envoyé une photo de sa femme et de sa fille dès qu'il a atterri. Il me dit qu'il avait déjà un petit projet de monter un business sur place. Il est très heureux et il a son passeport.
Et il est vivant ?
Et il est vieux, effectivement. Non, mais oui, parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance. Et même à l'heure où on se parle, hein, maintenant qu'il n'y a plus les caméras, parce que le pays, il continue de pousser comme les immeubles poussent comme des champignons. Hein. Il y a toujours de l'argent, il y a toujours du gaz. Donc il y a toujours des choses à construire et il y a toujours des gens à exploiter. Et même si la Coupe du Monde est terminée, bah, ça continue, il ne faut pas l'oublier.
On peut retrouver tous tes papiers de la Coupe du Monde et sur Paul aussi, sur 20minutes.fr.
Ouais.
Un mois de Coupe du Monde, tu t'attendais un peu à ça ?
Je passe la journée avec Paul dans les bas-fonds de Doha, où je suis allé dans la zone industrielle, là où c'est l'enfer, vraiment. Et puis tu rentres le soir dans ton hôtel avec une piscine sur le toit et tu vas te baigner là-dedans. Ça fait beaucoup d'émotions. Ouais. Tu dis, est-ce que je suis pas un enfoiré moi aussi ? Et en même temps, bon, bah, on est là, il y a une piscine, j'ai envie de me baigner, ça fait du bien. Et puis j'ai fait ma part. On a fait notre part parce que voilà, j'oublie pas, évidemment, on était à deux là-bas. Et oui, il a énormément bossé sur tous les sujets sociétaux. Ces papiers sont aussi disponibles, il faut aller les lire.
Est-ce que tu t'attendais en fait à faire, quand tu disais je vais aussi faire des papiers sur le pays, la croissance du pays, les conditions de travailleurs qui ont construit et qui construisent ce pays, est-ce que tu t'attendais à cette histoire ?
Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis moi, je ne suis pas préparé. Je suis, entre guillemets, journaliste sportif.
Non, arrête, dis pas ça, quoi.
Non, mais je veux dire.
Comme s'il y avait une gradation.
On couvre des matchs. Je suis pas un grand reporter. J'ai jamais fait de reportage auprès de gens autant dans la misère. Enfin, voilà, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et j'étais démuni. Voilà. Quand j'ai écrit à ma mère le soir, elle m'a dit, je suis sûr que tu l'as aidé, tu lui as donné un billet. Ben ouais, parce que j'ai pas
que le journaliste
recul,
est humain aussi, dis donc.
Voilà. Non, mais voilà.
Il y a quelqu'un derrière la carte de presse.
On n'était absolument pas préparé à ça. Et puis l'histoire s'enchaîne, en fait, quoi. On se rappelle, et puis finalement, on va ensemble à l'ambassade, et puis on va ensemble chez les flics, et puis je me mets à parler avec sa femme, et tous les jours, je suis en contact avec eux. Et moi, non, mais je suis très content d'avoir pu l'aider. Très content que...
D'avoir pu médiatiser aussi, parce que tu aurais pu le faire sans le médiatiser. Bien là, sûr, tu as fait le choix aussi de médiatiser.
Et l'histoire a marché. Enfin, c'est-à-dire qu'on a vu que c'est un des papiers, c'est le papier, les deux papiers les plus lus de la Coupe du Monde, c'est ces deux-là. Donc, c'est aussi rassurant. Voilà, il y avait beaucoup d'histoires en France. Ouais, mais le Qatar bashing, vous avez exagéré, ça va, c'est pas un pays. Et les Français s'en foutent. Une fois que le coup de sifflet va être donné, il y aura plus que le foot. Ben non, nous, on l'a vu dans les audiences, c'est ces papiers-là qui intéressent les gens aussi. Donc, ça rassure un peu sur l'être
humain.
Ouais, franchement, ça fait plaisir dans ce monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.